Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous. Une soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses. 18h en avant-première en podcast avant le passage antenne. 22h minuit. Première partie, l'actualité, la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actualité ce soir, elle est trans. Le 20 novembre dernier, c'était la journée du souvenir trans, comme tous les ans depuis 2002 en France, en mémoire des personnes trans assassinées dans le monde. Au mois de septembre, autre actualité, le gouvernement a refusé l'accès à la procréation médicalement assistée aux hommes trans. Ça, c'est pour le contexte. Les questions d'identité de genre sont-elles bien comprises dans la société française? Et puis le 11 décembre prochain, ce sera la sortie du film Lola vers la mer, un film qui met en scène une héroïne trans jouée par une comédienne trans. Alors on se demande quand les personnes trans seront-elles vraiment reconnues, comme le sont de plus en plus les lesbiennes, les gays et les bi. Et puis autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, cette semaine un hommage à Chris, avec le portrait sensible de Bambi ce soir, le nom de scène de Marie-Pierre Pruvot, artiste de cabaret trans. Oui, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant d'entrer dans le débat, je vous présente nos invités. Céline Audebeau, vous êtes présidente, directrice générale d'une usine au Vietnam et auteure du masculin au féminin, mon parcours singulier. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés, Grégory Tillac, il est délégué général et programmateur du festival LGBT de cinéma Chéri Chéri, c'est à Paris, entre autres. Bonsoir à vous. Face à vous, Frédéric Martel, le grand Frédéric Martel, qui préface cette fois-ci Pride aux éditions Grun. Bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Martel. Et puis enfin, Mia Bollars, actrice. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Laurent Micheli, votre réalisateur.
Bonsoir. Bonsoir.
Le film Lola vers la mer va sortir en salle dans quelques jours, au mois de décembre, le 11. Un film sensible sur le parcours d'une jeune fille trans. Lola, elle a 18 ans, rejetée par son père. Elle vit en foyer. Le film commence, la mère de Lola vient de mourir. Une mère qui avait accepté sa transition. On est à quelques semaines de l'opération. Bande annonce.
Comment ça va en ce moment?
Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça.
Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un travaux. Putain, pars-toi!
Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde?
Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé.
T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là!
Je la laisserai pas!
Soit tu descends, soit on y va.
Allez où?
À la mer. Alors tu te fais appeler Lola maintenant? Très classe.
Oh le con! Putain!
Je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu viens avec moi, ça va.
Non, je suis bien ici. Moi, je bouge pas.
Tu me touches pas.
Ça suffit.
C'est mon fils. Je fais ce que je veux.
On sera jamais d'accord tous les deux. Je te demande une seule chose. On finisse ce qu'on est venu faire. On le fait pour elle.
Première question, réalisateur Laurent Micheli. On voit rarement sur les écrans français un personnage de trans joué par une jeune fille ou un jeune homme trans. Par exemple, je me souviens dans Lawrence Anyways de Xavier Dolan, c'était Melville Poupeau qui jouait donc l'héroïne, un acteur cisgenre lui. On peut aussi penser à Lola Pater de Nadir Moknesh et c'était Fanny Ardant qui jouait le rôle de l'héroïne trans. Pour vous, c'était clair que ce serait une actrice trans qui pouvait interpréter le rôle de Lola?
Oui, dès le début de l'écriture, ça m'a paru comme une évidence et comme une nécessité. Je crois qu'on est à une époque où il est important d'œuvrer à de la visibilité et on a le pouvoir en tant que cinéaste de participer à ça. Donc voilà, je crois qu'il est important de laisser aux minorités, quelles qu'elles soient, la possibilité de se réapproprier leur vécu, leurs histoires et c'était un devoir de le faire pour moi. Ceci étant dit, je crois aussi que c'est lié à une époque et j'espère moi qu'à un moment ce ne sera plus nécessaire et que les choses seront beaucoup plus simples et plus fluides parce que je pense sincèrement qu'un acteur peut tout jouer, mais sauf qu'aujourd'hui on est dans une époque qui revendique ça, qui nécessite ça politiquement.
Vous aviez ouvert le casting à des acteurs et actrices cisgenres pour
non.
ce rôle?
Non.
Donc non. Dès le départ, c'était vraiment... Et quel genre de casting vous avez demandé alors, que vous avez fait passer ?
Oh bah le premier tour du casting, c'était une petite vidéo de présentation qu'on demandait aux personnes. Je dis personnes parce que c'était à la fois des personnes non binaires, des femmes trans, peu importe leur endroit de transition. Enfin voilà, c'était assez ouvert à cet endroit-là. Et donc voilà, on demandait une vidéo de présentation. Et ensuite, pour les personnes que j'avais retenues, on a eu plusieurs étapes de casting où là, on était plus dans de l'impro, du jeu. Alors, moi, je l'ai fait très en amont du tournage, ce casting, parce que je savais que ça allait probablement être un peu compliqué, potentiellement compliqué à trouver, d'une part, et d'autre part, aussi parce que je me doutais bien que la personne que j'allais trouver n'allait pas être une actrice pro, et que donc, j'allais avoir besoin de temps pour travailler avec elle en amont du tournage.
C'était votre premier film, Ia ?
Oui, absolument.
Vous avez répondu donc à l'annonce, c'est ça ? Vous avez envoyé une vidéo de présentation ?
Oui, j'ai répondu à l'annonce et j'ai fait un peu ça juste pour passer le temps sans me prendre la tête. Et puis, il s'est avéré que rencontre après
Bingo.
Rencontre, j'ai décroché le rôle. Mais à la base, oui, ça venait juste, c'était un dimanche après-midi, j'avais rien à faire en particulier. Et puis voilà.
Qu'est-ce que vous... C'est bon, si c'était toujours comme ça, ce serait vraiment génial. Oui. Qu'est-ce que vous aviez programmé dans cette vidéo de présentation ? Qu'est-ce que vous avez raconté ?
En fait, j'ai... dans l'annonce du casting, déjà il y avait une petite explication sur Lola, sur la vie de Lola. Et en fait j'ai fait comme si j'étais Lola directement et que je présentais ma meilleure amie qui s'appelait Mia. Donc je me suis mise dans la peau de Lola pour me présenter moi en fait.
Ce qui était assez intéressant assez malin, parce que en fait il y avait déjà un endroit de jeu dans sa vidéo de présentation et c'était la seule qui avait fait ça, donc on l'avait déjà noté avec la directrice de casting Karen Autois, cette chose-là.
Alors la vie de Lola, c'est peut-être pas la vôtre, parce que Lola a plutôt une vie, un parcours difficile, sa mère vient de mourir, la mère avait accepté l'opération, le père est complètement bouleversé, et lui en dehors de tous ces codes-là. Est-ce que vous vous êtes senti seul quand vous avez achevé votre propre transition ?
Achevé dans quel sens ?
Finir avec l'opération.
Qui vous dit que je suis opérée ?
Je ne sais pas.
Et puis je pense que ce sont des questions qui ne concernent que les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes trans. Il faut sortir de ces schémas binaires, de binarité génitale et anatomique, et de se dire que chaque personne trans veut faire une opération.
Justement. Mais la loi a même changé sur ce domaine-là.
Donc c'est pas forcément vrai. Donc il faut sortir de ces idées et de ces questions, je pense.
Comment vous êtes documenté, Laurent Micheli, sur ce sujet ?
Par plein de biais. Alors de toute façon de base, moi je suis quelqu'un d'assez concerné et proche des luttes LGBTQI+. Ça fait partie de mon quotidien. Comme évidemment c'était ultra nécessaire de pas s'emparer pour moi une personne cis d'une histoire de fille trans et de d'en dire n'importe quoi, il fallait sortir des fantasmes qu'on peut avoir là-dessus. Et donc j'ai lu plein de choses, que ce soit des bouquins ou même des choses factuelles sur les lois. J'ai rencontré des parents d'enfants trans. Évidemment rencontrer des personnes trans, c'était super important pour moi d'être accompagné au-delà du choix d'une actrice trans pour ce rôle. J'ai eu des regards et des échanges avec des personnes trans pendant l'écriture. Évidemment sur le plateau il y avait Mia. Ensuite pour la post-production, pour le montage, enfin voilà, c'était important pour moi d'avoir un regard des personnes concernées là-dessus. J'ai vu plein de films, j'ai vu des documentaires, enfin bon voilà.
Céline Audebeau, vous avez vu le film ?
Oui, j'ai eu la chance de le voir hier. Agréablement surprise, d'abord très heureuse de voir que c'était une personne trans qui jouait son propre rôle. Et j'ai eu des moments très forts, parce que c'était aussi, ça évoquait ma transition. Et je pense que ces moments qui étaient forts l'étaient pour moi, et le sera peut-être pas pour un public. C'était juste des petites choses que Mia a pu mettre en place, et qui sont juste un petit sourire, juste un petit détail, qui va faire toute la différence.
Grégory Tillac, vous avez mis ce film en ouverture du festival Chéri Chéri, le festival LGBT.
Tout à fait, Lola vers la mer a fait l'ouverture. Ça a été une très très belle découverte cinématographique pour nous. Et on voulait vraiment mettre à l'honneur ce film qui est particulièrement fédérateur, plein d'espoir, et qui aborde une multitude de thématiques de manière extrêmement délicate, comme le deuil, la transition de genre, le patriarcat. Et on trouvait surtout que c'était en effet une œuvre importante pour la représentation des personnages trans et l'inclusion des acteurs et actrices transgenres à l'écran.
Dans l'histoire du festival, est-ce qu'il y avait déjà des films français ou disons francophones avec ce même genre de casting et de dispositif?
Alors en ouverture, non. Il n'y a jamais eu de film présenté à Chéri Chéri dans ce cadre-là. Mais il y a eu quand même pas mal d'œuvres françaises.
En effet, pense à Wildside, par exemple, Wild de Sébastien Lipschitz.
Tout à fait.
Avec
Stéphanie Michelini. Ouais. Oui, tout à fait, en 2003. Il y avait aussi Bambi, un superbe documentaire qui était sorti...
De Sébastien Lipschitz.
De Sébastien Lipschitz, toujours. Il y avait également le documentaire de Christian Sonderegger qui s'appelait Kobe, un film magnifique sorti il y a 2 ans.
Mia Bollars, vous regardiez, est-ce que vous êtes familiarisée avec des films justement où des personnages trans jouaient des rôles de trans?
Non, pas du tout. J'avais jamais fait attention à ça, j'avais jamais regardé après ça. Et donc non, en fait, j'étais un peu seule avec moi-même quand j'ai eu le rôle de Lola. J'ai pas cherché forcément à trouver d'autres personnes qui avaient vécu la même chose.
Ben oui, mais parce que juste, je me permets de rebondir, mais c'est parce qu'on dit que, enfin, Grégory disait, il y a quand même eu beaucoup de films, mais vous citez en fait beaucoup de
documentaires,
d'œuvres de fiction, des films de fiction. Il y en a pas tant que ça, et à ma connaissance, un premier rôle incarné par une actrice trans. Enfin, je le dis parce qu'en fait,
Wildside avec Stéphanie Michelini, ça c'est certain.
Oui, ouais. Ça je sais, je sais bien, ce film de 2004, mais. En fait, c'est un choix qu'il faut porter du début à la fin, et que c'est pas un choix gratuit, c'est une vraie démarche, quoi. Et en fait, on est encore peu à le faire, et je pense qu'il faut que ça bouge davantage. Moi, je remercie Grégory et l'équipe qu'on a été mis à cet endroit-là du festival, et j'espère que
il y a eu un débat ensuite.
Non,
après la projection.
Non, je pense qu'il n'y avait pas le temps à l'endroit de l'ouverture du festival, mais on en a beaucoup dans tous les autres festivals dans lesquels le film est sélectionné.
Alors justement, quel genre de questions on pose pendant ce genre de débat après ce film?
Quel genre de questions? Je sais pas d'où vient cette envie de faire ce film.
Ça d'accord, mais est-ce qu'il y a des témoignages de parents, par exemple?
Oui, on en a eu, On a à la fois des témoignages de personnes concernées ou de parents d'enfants trans, aussi des gens qui disent qu'ils n'étaient pas du tout sensibilisés au sujet, qui sont venus un petit peu là, soit parce que le festival, ils y sont habitués, soit parce que quelqu'un les a emmenés, qui pensaient plutôt qu'un film sur l'histoire d'une jeune fille trans allait pas les intéresser ou les toucher, puis qui nous partagent que c'est pas du tout le cas, qu'en fait, ce film aussi transcende son sujet, et qu'il y a plein d'autres choses, comme l'a dit Grégory, qui... plein de thématiques qui sont abordées, l'amour filial, le deuil. Enfin, c'est un film qu'on a aussi voulu développer d'une façon la plus large possible, la plus universelle possible. Moi, j'avais pas envie de prêcher des convaincus avec ce film-là. J'avais envie de dire, ok, la visibilité, la tolérance, faut que ce soit grand et que ça atteigne plein de gens, surtout ceux qui n'en ont pas l'habitude.
Frédéric Martel, vous avez vu le film? Pas encore.
Non. D'abord, j'aime bien voir les films en salle, presque toujours d'ailleurs, y compris quand on est invité aux avant-premières, je préfère les salles. Donc, ce qui moi me frappe dans cette évolution, c'est que aujourd'hui, quand vous voyagez à travers le monde, vous êtes frappé que presque partout, y compris dans des pays très inattendus, je pense à Cuba, je pense au Liban, il y a des festivals LGBT. C'est comme si le cinéma était, notamment dans des pays où l'homosexualité, la bisexualité, les questions trans restent difficiles à traiter, c'était un peu le début de la révolution. Et d'une certaine manière, qu'un film comme ça, que j'irai voir dès sa sortie le jour même...
11 décembre.
Voilà, le 11 décembre, puisqu'il a été un peu retardé. La sortie d'un film comme ça montre que c'est en train de bouger. Quand on regarde l'histoire du mouvement LGBT, on s'aperçoit que les films ont été depuis longtemps, avant même 69, c'est-à-dire avant Stonewall, et depuis régulièrement ont annoncé cette révolution en cours. Et donc le cinéma joue ce rôle, la littérature aussi peut-être le faisait, je dirais, à l'époque de Julien Green, de Proust, et même encore aujourd'hui. Mais
le cinéma, voilà, le cinéma cette place. Et les séries aussi d'ailleurs, avec des personnages.
Alors peut-être plus récemment les séries, mais du coup je trouve ça passionnant de suivre et d'essayer de comprendre cette évolution de la libération, entre guillemets, des mœurs, comme on disait à l'époque, à travers le cinéma.
Mia Bollars, à travers ce personnage, est-ce que vous avez retrouvé quelque chose de votre propre parcours?
Il est évident que pour interpréter Lola, je me suis servie de choses personnelles, de mon vécu, donc que j'ai amené vers moi justement pour réussir à interpréter Lola de la meilleure façon qu'il soit. Et donc je me suis bien évidemment servi de mon parcours et de certains états émotionnels et d'émotions que j'ai pu rencontrer durant mon parcours, simplement. Et
durant ce parcours, vous avez été accompagnée par vos parents, ou plutôt rejetée, comme dans le film, par le père, par exemple?
Je pense qu'il est important de scinder, en fait, bien que là, c'est une histoire de fiction et que moi, j'ai ma propre histoire.
Bien sûr.
Dans mon parcours, j'ai plutôt eu de la chance, on va dire ça. On va dire qu'il y a eu des difficultés, mais maintenant, tout se passe très bien.
Et Céline Audebaud, de votre côté?
Alors, on n'est pas de la même génération.
Pas du tout.
Et c'est une chance aujourd'hui pour Mia d'être renseigné, d'être informé. Moi, à son âge, je ne savais même pas que ça existait. J'étais convaincu d'être la seule personne sur Terre qui avait ce problème. Donc, moi, j'ai fait cette transition très tardivement, il n'y a que 2 ans, à 53 ans. Mais je vois que tout ce qui se met en place, c'est justement ce genre de film, aide vraiment à donner une meilleure visibilité. Et c'est vraiment ce à quoi, moi, je travaille aussi. Je ne cherche pas du tout à convaincre les personnes transgenres ou d'essayer de les rassembler, mais vraiment de montrer, de donner une autre image. Il y a tellement de stéréotypes et de clichés que c'est vraiment le genre de film qui va permettre d'en sortir.
Nous avons des cœurs siamois et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais
c'est la déclaration d'amour de Clara Luciani à sa sœur Ella, qui est une chanteuse, elle aussi, qui va sortir un album dans quelques temps d'ailleurs.
France Inter.
Ton opération, c'est pour quand?
Normalement dans 5 semaines. Maintenant, je sais pas, je vais peut-être devoir un peu attendre. On verra.
Pourquoi tu veux faire ça? Tu sors à peine de l'adolescence. T'as à peine 18 ans. C'est normal d'être mal dans son corps, d'être complexé, je sais pas. Peut-être qu'à 25 ans, tu verras les choses autrement. Tu changerais d'avis.
Mais je changerais pas d'avis. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un extrait de Lola, Vers la mer, votre film, Laurent Micheli, un échange entre Lola, 18 ans, qui veut achever son parcours de transition, et son père complètement largué, joué par, il est vraiment exceptionnel,
Benoît Magimel.
Vraiment formidable. Trans, changement d'état civil, eh bien c'est pas gagné, on en parle avec nos invités ce soir, Céline Audebeau, PDG au Vietnam, qui signe du masculin au féminin en parcours singulier, Frédéric Martel pour sa préface de Pride aux éditions Grund, Grégory Tilla, qui est le programmateur du festival LGBT Cinéma Chéri Chéri, qui finit aujourd'hui même, et bien sûr, Mia Bollars, l'actrice de ce film. Avant, quand on voulait changer ses papiers, il fallait se faire stériliser avant de passer devant le juge, pour éventuellement obtenir ces papiers. En 2016, les associations LGBT ont réussi, dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, à évacuer toute médicalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de changer de sexe pour changer d'identité. Mais on doit quand même passer devant le juge pour avoir ces papiers. Comment ça s'est passé pour vous, Céline Audebeau? Vous, c'est autrement, parce que c'était au Vietnam.
Alors oui, j'habite au Vietnam. J'ai dû rentrer en France pour être au TGI de Colmar, où je suis passé, enfin c'était très théâtral. Il y avait 3 juges, un procureur, et qui me demandait « Monsieur, pourquoi êtes-vous là ?» Alors que j'étais en robe, et puis... Donc c'était assez malsain, on va dire, franchement, comme attitude. Et donc j'ai expliqué, j'ai pas arrêté de parler. Bon, j'avais une avocate, parce que sinon c'est compliqué, même si c'est gratuit, mais bon. Et j'ai eu la chance quand même visiblement de les convaincre, et parce que j'habitais loin, ils ont pris une décision sur le siège. Ça veut dire que le jour même, j'avais mon attestation, comme quoi j'étais officiellement une femme. Mais c'était lourd, parce que pendant plus d'un an, je voyageais partout à travers le monde, et avec un passeport, avec le M et encore le prénom masculin, c'est pas facile. Donc il y a certains pays, notamment les États-Unis, où voyager avec un passeport masculin lorsqu'on a une apparence féminine, c'est pas évident.
Mais ça, je peux imaginer. Laurent Micheli, puisque vous êtes documenté pour ce film, est-ce que vous avez rencontré justement, eh bien, des hommes ou des femmes trans qui ont fait cette démarche de passer devant le juge récemment? Depuis 2016.
Oui, non, mais surtout, bon, alors c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux pas dire n'importe quoi, d'autant que les lois sont pas les mêmes en Belgique et en France, et elles ont pas changé en même temps. Moi, la seule chose que je peux dire en tant que personne non concernée, c'est que j'ai l'impression que il y a énormément de personnes trans qui revendiquent ça, et à juste titre, parce que ça complique toute leur vie, et que ça force des outings. Donc, je ne sais pas, par exemple, j'ai entendu beaucoup de récits comme ça de personnes qui voulaient aller chercher un colis à recommander à la poste, et puis qui sont obligées de sauter face à tout le monde. Ça crée des situations qui sont dangereuses, en fait, pour les personnes, parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est évidemment extrêmement important. Et surtout, enfin, là, je trouve qu'il faudrait laisser parler surtout.
Je vais demander à Mia, ouais. Bien sûr, à Mia Bollars. Ouais. Mia Bollars, comment ça s'est passé, vous, votre changement d'identité?
Moi, ça s'est passé en Belgique, c'est pas la même loi qu'en France.
C'est-à-dire, c'est pas la même loi en Belgique?
Je connais pas la loi française, donc je vais pas pouvoir vous répondre. En Belgique, l'ancienne loi, c'était, il fallait une attestation d'un chirurgien qui attestait qu'on était stérilisé également. Et après, maintenant, on a juste besoin, en fait, de l'autodétermination. Donc,
je crois que c'est pareil en France.
On va juste à la commune, simplement, on atteste qu'on est une personne femme ou un homme en fonction de son genre de départ, et en fonction de ça, au bout de 3 mois, on obtient les papiers gratuitement fournis par l'administration communale.
Vous saviez cela, Frédéric Martel?
Absolument pas. Ce qui m'a frappé, moi, c'est lorsque vous voyagez, par exemple en Iran, c'est une question relativement aisée par rapport, par exemple, à l'homosexualité ou au lesbianisme. Comme si, dans un pays arabe, ce qui n'est pas forcément vrai tout le temps, mais malgré tout, on pouvait, dès lors qu'on était de, on changeait de sexe, à partir de là, les codes redevenaient corrects. J'ai fréquenté en Arabie Saoudite, par exemple, une transsexuelle qui, par ailleurs, était française et vivait là, et était applaudie parfois. Je marchais avec elle dans la rue, applaudie dans la rue. Et donc, il y a des fonctions, des réactions du public peuvent être paradoxale, parfois évidemment négative, on l'a dit, parfois violente, mais aussi parfois inattendue. Et donc c'est un phénomène qui mérite d'être analysé dans toute sa complexité et diversité en fonction des pays, des situations.
Pour le changement d'identité en Asie, Céline Debeau, c'est une question d'argent, par exemple?
Ah ben disons que, étant française, j'ai fait mes changements d'identité en France. Ce qui était plus compliqué, c'était, comme je suis actionnaire de mon entreprise, il fallait que le genre puisse être reconnu au Vietnam.
C'est ça, ouais.
Et ben ça n'existait pas. Donc j'ai été la première à bénéficier de ça. Ils ont accepté que la personne précédente et la nouvelle Céline soient la même personne. Et donc j'ai été la première personne transgenre au Vietnam à bénéficier officiellement du changement de genre. Et maintenant, j'ai pas mal milité là-bas aussi, et puis donc il va y avoir une loi qui va être votée en 2020 au Vietnam, justement pour autoriser le changement de genre de façon plus facile. Surtout pour les Vietnamiens.
Ouais. Je peux imaginer, oui. Alors, selon le rapport annuel 2018 de l'association SOS Homophobie, 186 personnes transgenres ont signalé en 2017 une agression en raison de leur identité de genre. C'est quand même une hausse de 54% par rapport à l'année précédente. En mars dernier, on se souvient de l'histoire de Julia, une jeune femme trans qui s'était fait agresser en sortant du métro Place de la République à Paris. Laurent Micheli, cette violence, il fallait aussi qu'elle soit traitée dans le film? Pas de façon spectaculaire, hein.
Non, de façon intime. Ouais. Pour moi, le personnage de Sper, quelque part, c'est une métaphore de la société. Bien sûr, il y a des parcours de
le père traite son fils, sa fille, de travelot. Je dis son fils parce que il hésite toujours.
De son point de vue à
voilà,
lui.
De son point de vue à lui. Voilà, il l'appelle Lionel vue, alors qu'elle s'appelle Lola. Ouais.
Voilà, de notre point de vue, effectivement, appelons-la sa fille. Oui, bah, c'est ça. C'est une métaphore de ce qu'est la société. Je crois que, évidemment, oui, il y a des parcours de transition, de transidentité, des accompagnements qui se font bien, et c'est tant mieux. Mais je crois que c'est aussi justement à travers le fait de raconter des histoires comme celle-là qu'on dit que, en fait, les personnes trans, quand elles sont bien accompagnées, elles vont bien, et quand elles sont mal accompagnées, elles peuvent aller bien aussi, mais elles sont obligées de rentrer un peu plus dans l'art. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il faut mettre les gens et la société face à ses responsabilités, quoi, et de dire, en fait, chacun, quelque part, est responsable de la transphobie qui existe dans le système, comme de l'homophobie qui existe dans le système, enfin voilà, en gros, les minorités souffrent de je sais pas, d'être moins facilement accompagné que le reste de la population, et je crois qu'on doit se mettre face aux privilèges qu'on a en tant que personne privilégiée et essayer de déconstruire ça et d'essayer de rentrer dans une société plus égalitaire, quoi.
Frédéric Martel.
Je pense qu'il faut aussi, il y a les violences physiques dures que vous décrivez très bien, et puis il y a aussi tout un tas de petites violences, de micro-violences. Je pense par exemple des phénomènes administratifs. Vous changez de sexe, donc vous changez de numéro de sécurité sociale. Bon. Et tout à coup, un jour, vous devenez retraité et on va regarder quels sont les emplois que vous avez eus dans votre vie. Et comme par hasard, tous les emplois où vous étiez avec votre autre numéro de sécurité sociale disparaissent. Et il va y avoir une bataille qui est aujourd'hui un peu plus facile, mais qui a existé il y a quelques années, par exemple, très longue, pour arriver à ce que la sécurité sociale recolle, si j'ose dire, les deux numéros de sécurité sociale pour reconnaître vos trimestres à l'époque où vous étiez 1 ou 0 et où vous avez changé de numéro de sécurité sociale. Et bon, évidemment, c'est aussi la complexité de l'administration, des choses nouvelles qui prennent du temps, mais toutes ces violences cela peut-être moins connu me paraissent également importantes.
Mais il y a une des violences quand même aux personnes trans, c'est le Mais j'enrage. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais vu ce. Vous ne savez pas ce que c'est?
Non.
Avec Martel. Quelqu'un sait ce que c'est? Ben oui, j'imagine. Mia Bollard.
Oui, le mais j'enrage, c'est d'utiliser un pronom masculin à une personne qui va s'autodéterminer en tant que femme. Et il y a aussi, en fait, la violence dans le vocabulaire, l'importance du vocabulaire. Par exemple, le terme transsexuel, c'est un terme à bannir parce que c'est un terme psychiatrisant. Et il faut sortir de ces mots-là parce que les personnes trans, la transidentité a été retirée des maladies mentales depuis un petit moment quand même. Donc je pense qu'il faut aussi mettre en avant l'évolution du vocabulaire. Et de la même façon, il faut arrêter de penser que chaque transition a une échéance et a une fin. En fait, chaque transition a une fin, se trouve à un point de confort différent. Des personnes vont avoir envie de se faire opérer, d'autres vont vouloir juste prendre des hormones et d'autres vont encore juste vouloir avoir une transition sociale sans prendre des hormones ni faire d'opération.
C'est pour ça que la loi permet justement qu'il n'y ait plus d'opération chirurgicale pour accéder à une autre identité. Absolument. Céline.
Oui, alors moi j'ai fait vivre en Asie. J'ai ressenti aucune violence, j'ai jamais eu le moindre problème. Il faut dire que la tolérance est quand même bien plus grande en Asie qu'elle l'est ici. Et j'ai fait mes opérations en Thaïlande, où c'est quand même très ouvert et accepté. Par contre, même ici, quand je viens en France, jamais je n'ai eu la moindre remarque. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Et j'ai refusé absolument d'être intégré au système français à cause des psychiatres. Pour moi, c'est une agression énorme quand un psychiatre demande à son patient qui veut changer de genre, dit bah, avant que vous ayez une imprégnation hormonale, on voudrait que vous viviez dans votre genre. Donc du jour au lendemain, vous vous habillez, vous devez vous changer et vivre en tant que femme, dans mon cas. Et si ça se passe bien, bah, éventuellement, on vous donnera le certificat pour avoir un traitement hormonal. Moi, j'étais ulcéré et c'était une des raisons aussi pour laquelle je me suis expatrié, parce que jamais j'aurais pu accepter ce système médical et surtout psychiatrique.
Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce genre de choses.
Chose. Ouais. C'était la même chose en Belgique.
La même chose en Belgique.
C'était la même chose en Belgique à l'époque. On devait, je pense, vivre 2 ans dans le genre qu'on souhaitait avant d'avoir une imprégnation hormonale, ce qui est quand même juste, en fait, complètement débile, parce que c'est 2 ans de perte dans un parcours. Parce que moi, comme j'étais jeune, vraiment, vivre 2 ans dans un genre qui n'était pas, enfin, dans un genre qui était le mien, mais avec l'évolution physique, la puberté, etc. Oui. Moi, ça aurait été vraiment une perte et enfin, ça aurait été vraiment dommage dans mon cas. Et du coup, j'ai trouvé des hormones sous la chemise, quoi. Sous le manteau, c'est ça. Et ce qui est dangereux, en fait, parce qu'on va s'automédicaliser. Ouais. C'est ça. Et ça en devient dangereux, quoi. Donc, heureusement qu'en Belgique et en France, les lois ont changé pour ça.
Il faut savoir que c'est la Sécu qui impose 2 ans de psychiatrie en France. Et donc, c'est quand même relativement lourd. Et ensuite, il faut voir que le parcours dans son ensemble, après le traitement hormonal qui, lui, peut pas, il faut qu'il y ait un temps minimum d'une année, mais qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et ensuite, bénéficier des opérations si la personne le veut, ça va aller sur une période entre 5 et 9 ans. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'on a attendu toute notre vie, qui nous a pourrit la vie depuis l'enfance, mais on nous impose encore 9 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est 9 ans, avec une stigmatisation, avec tous les problèmes qui sont liés à cette étape intermédiaire. On n'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment pas des situations faciles. Et c'est, pour moi, ça me révolte profondément.
Por ti, ti, tú por mí.
Póngalo, billete.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Póngalo, billete.
Y yo por ti, tú por mí. ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Brillarían y es que ¿quién lo diría? Que en la esquina de esa son sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos y brillarían. Yeah.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca tu canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes.
Tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Así sé.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Póngalo,
yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Póngalo,
yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. La Rosalía. Mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta esa son sonaría. Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta esa son sonaría.
Le duo entre la catalane Rosalía et le portoricain Ozuna qui mettent le feu sur France Inter. On parle de transition ce soir dans l'énervé à l'occasion de la sortie programmée le 11 décembre prochain du film de Laurent Micheli, Lola vers la mer, le portrait d'une jeune fille trans qui lutte contre les préjugés de son père pour achever sa transition. Alors pendant la chanson, gros débat entre nos invités au sujet du rôle de l'État. On refait le rewind de Frédéric Martel. Qu'est-ce que vous défendiez comme position ?
Non, je pense que il est important que l'État soit à la fois en empathie et avance avec les personnes concernées, mais soit aussi un peu le garant d'un retour possible. Si on prend l'adoption, par exemple, l'État va refuser qu'un enfant soit adopté très longtemps, ce qui est une tragédie souvent pour ces enfants. Et en même temps, c'est permettre à la femme, à la mère, de pouvoir récupérer éventuellement son enfant, parce qu'un jour, elle peut changer d'avis. Alors la comparaison n'est pas forcément la même en l'occurrence, mais il y a aussi des personnes qui vont qui vont avoir des personnes trans qui vont vouloir
et revenir donc, à l'état précédent
qui est un passage. Alors
est-ce qu'on a des chiffres de ça, parce que
c'est dangereux
de parler comme Laurent ça Michel. De manière assez
non mais on peut pas parler non
et puis encore une fois l'État n'a pas à se positionner comme juge de
mais
de,
c'est pas une question de juge l'État de vous parlez des psychiatres, vous savez la psychiatrie elle a beaucoup changé. Moi je connais des psychiatres, ils sont extrêmement favorables aux personnes trans, ils les écoutent, ils les accompagnent, donc on peut
mais
pas
ça,
non plus
pas la question,
renvoyer
la question,
les médecins comme étant obligatoirement mais vous savez le mouvement homosexuel s'est opposé notamment dans les années 70 aux médecins à juste titre, parce que c'était une époque où l'homosexualité, évidemment la transsexualité était
transidentité en fait.
Oui, mais à l'époque on parlait de transsexualité.
Oui,
elles étaient des maladies mentales, y compris pour l'ONU. On est sorti de tout ça. Donc aujourd'hui, même si tous les psychanalystes ne sont pas dans cette direction, tous les psychologues non plus, tous les psychiatres non plus, malgré tout, ce sont des professions qu'on peut pas considérer comme homophobes systématiquement ou
lesbophobes. Mais personne ne dit que la profession est transphobe ou homophobe. Ce qui est transphobe et homophobe, c'est d'obliger les gens, c'est l'État qui le laisse.
C'est de fait que la sécurité sociale demande le passage devant un psychiatre.
Moi, je parle pas des médecins, moi, je parle de l'obligation.
Je redis que je pense qu'il y a des étapes et le rôle de l'État, c'est parfois de jouer le bad guy, voilà. Et donc moi, je pense qu'il y a des équilibres à trouver et bien sûr que ça peut évoluer. D'ailleurs, ça doit dans certains registres. L'État fait beaucoup aussi de fautes à certaines périodes. Mais voilà, je pense qu'il y a une manière aussi de. Il faut aussi du temps pour que les personnes soient sûres. Voilà.
Ouais. Céline Debeau. Et ensuite, Mia Bollars.
Il y a 35 ans, je suis passé pour la première fois devant un psychiatre parce que j'avais besoin d'en parler et j'ai été diagnostiqué déviante sexuelle.
Non, mais il y a 35 ans.
Mais il y a 35 ans, mais c'était des psychiatres aussi. Oui. Et c'est les mêmes aujourd'hui.
Bah, pas forcément.
Oui, pas forcément. Mais c'est toujours la psychiatrie. Ce qui était vrai il y a 35 ans ne l'est plus aujourd'hui.
Non, c'est pas vrai, ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que pour les personnes transgenres, et pour la plupart, du moins celles que je connais, c'est un mal-être qu'on a depuis l'enfance. Moi, c'est depuis l'âge de 5 ans que j'ai traîné ça. Quand je l'ai fait, j'étais sûr de moi. Je veux dire, on n'a pas besoin de me rajouter encore 2 ans et qu'un médecin me confirme, oui, vous avez vraiment ça.
Mia Bollars.
Je vais absolument dans ce sens. Moi, c'est depuis toujours. Je me suis jamais posé la question, est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un garçon? Cette question ne m'a même jamais traversé l'esprit. J'étais en paix avec moi-même, je savais qui j'étais et je savais quel était mon genre. C'est juste que l'État m'a assigné un genre masculin et qu'il ne veut pas si facilement nous donner la possibilité d'avoir un corps et de se ressentir dans un corps qui nous convient. Et donc, qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que les psychiatres viennent faire là-dedans? Je n'ai jamais été malade, j'ai toujours su qui j'étais et je ne me suis jamais posé la question et j'ai jamais hésité. Je veux dire, c'est pas un.
Non, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde.
C'est ça que je veux dire. C'est simplement ça.
Oui,
ça
peut arriver à d'autres. Mais je veux dire, ce n'est pas, on ne choisit pas entre salade et pommes de terre, quoi. En fait, c'est quelque chose. Si on hésite, on va pas forcément commencer un parcours transitoire. Je veux dire, si on hésite, à ce moment-là, on va être suivi peut-être par des psychologues qui peuvent nous aider. Mais ce n'est pas à eux, c'est pas aux psychiatres de dire oui, ok, tu as tort, tu as raison. Non. Voilà.
Céline Debeau, vous avez achevé votre transition récemment, après la cinquantaine, hein, je me permets de le dire, parce que vous l'aviez annoncé tout à l'heure. Pourquoi vous avez attendu si longtemps ?
Ah ben disons que j'étais pas prête pour le faire. Et il y a toujours le poids de ce qu'on va imposer aux autres. Donc voilà, moi je me suis abstenue, j'ai essayé de préserver mon entourage, de pas leur infliger ça, et mes parents, enfin tout mon entourage, ma famille... n'avait strictement rien vu jusqu'à 2 mois avant que je commence ma transition réellement. Donc ça a été une surprise pour tout le monde et c'est quelque chose que j'ai caché toute ma vie. Donc voilà, je l'ai fait à 53 ans parce que d'une part, j'étais pas informé lorsque j'étais plus jeune, c'était pas possible de le faire. Et d'autre part, je souhaitais avoir une assise professionnelle, enfin avoir une... pouvoir conserver ce confort ou pouvoir conserver le style de vie que j'ai aujourd'hui. Donc ça m'a permis de le faire parce que j'avais déjà un bagage derrière moi ou une expérience.
Frédéric Martel, dans la préface que vous signez du livre de Matthew Todd, je rappelle, Matthew Todd, c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine Attitude, vous dites que la révolution gay est un phénomène intégral, à la fois un mouvement politique et culturel, mais aussi, et peut-être d'abord, une révolution sociale. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes trans sont les grandes oubliées, en fait, de cette révolution sociale?
Bah moi, si j'ai accepté, je fais ça très rarement, de préfacer ce livre Pride de Matthew Todd, c'est que d'abord j'étais intéressé par cette histoire, alors que je suis censé un peu la connaître. Elle est plus internationale que ce que souvent on connaît, puisqu'on est très français. Et effectivement, la question trans arrive... Alors, elle est présente dès le début, d'ailleurs, Stonewall, on le sait, dès la nuit de la révolution gay en 1969.
Oui, il y avait la figure de Marsha P. Johnson, sauf qu'elle a été complètement effacée, en fait, de l'histoire.
Voilà, et en même temps, beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que dans le livre, on voit bien que c'est présent dès le début, mais ce n'est une revendication que très tard dans le livre. Et ce qui m'intéresse dans cette révolution, c'est malgré tout, et peut-être je vais à nouveau vous choquer, sa brièveté. C'est-à-dire que quand on compare la plupart des grandes révolutions sociales, y compris la question noire, la question des femmes, on constate qu'entre le moment où le militantisme homosexuel apparaît sur la scène, alors il est plus ancien que 1969 malgré tout, mais les choses vont aller relativement vite. Enfin, évidemment, c'est toute une vie humaine, c'est plusieurs décennies, mais à l'échelle de l'histoire, c'est rapide. Et une révolution totale et intégrale dans le sens où on va passer littéralement en 50 ans de la pénalisation LGBTQ, si vous voulez, à la pénalisation de l'homophobie ou de la transphobie. Et cette révolution, elle est fascinante.
Et pour autant, Trump a obtenu de la Cour suprême des États-Unis que les personnes trans ne puissent pas servir dans l'armée.
Oui, alors c'est pas Trump qui l'obtient, puisque non. Vous savez qu'il n'a pas ce pouvoir-là, il a beaucoup de pouvoir, mais pas celui-là.
Sous son administration, on va dire.
Effectivement, la Cour suprême, elle évolue, elle est plutôt allée dans le bon sens depuis 50 ans, malgré tout. Il y a des juges plus conservateurs aujourd'hui. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, je crois, là-dedans, c'est comment on a une sorte de... de diversité incroyable qui va s'établir, mais aussi, je pense que c'est important, et c'était ça mon discours, y compris sur la question trans, je pense que c'est très important dans une minorité déjà très plurielle, LGBTQ, moi j'ai même parlé de LGBTP dans mon livre, puisque j'y ajoute les prêtres, puisque j'ai beaucoup écrit là-dessus, prêtres qui sont une communauté très homosexuelle et qui n'est pas libérée, et qui mériterait de l'être, etc. Et ce qui est important, c'est aussi de valoriser la diversité dans cette diversité. C'est-à-dire que le mouvement sexuel, il est lui-même très divers, parfois il l'oublie. Le mouvement trans, il est aussi très ouvert, il y a beaucoup de tonalités. Et je pense que quand on s'est battu pour être soi-même et en même temps avoir le droit d'une forme de différence, même si c'était aussi un droit à l'indifférence, il faut aussi accepter les différences au sein même de notre minorité.
Céline Debeau.
On parle d'identité sexuelle. Alors que dans notre cas, c'est une identité de genre. Le sexe n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma transition, j'avais besoin de ce sexe pour me sentir moi-même. Mais j'étais convaincu à 100% que ça allait jamais servir. J'en avais pas besoin, j'avais tiré un trait sur ma sexualité, mais il me fallait ça pour vivre. Donc c'est vraiment... on mélange... Bon, c'est sûr, on est dans les LGBTQ, mais bon, on a des orientations sexuelles.
Il y a le T de trans dans LGBT.
Oui, oui, il y a le T, mais il y a aussi les orientations sexuelles, ouais. Et nous, c'est les orientations de genre.
On parle généralement de questions de genre et sexuelles. On a toujours le mot de genre, oui.
Mais la plupart du temps, pour les transgenres, il n'y a pas d'aspect sexuel.
Mais il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, Laurent c'est-à-dire Michelin, qu'on parle de sexualité, de transsexualité, c'est pour ça qu'on a banni ce mot,
parce mot qu'il n'a rien à voir. N'existe pas,
il a été toujours, banni, notamment aussi pour cette raison-là, parce qu'il ne s'agit pas de sexualité. C'est la discussion qu'ont Lola et son père dans
exactement,
le film.
Exactement, parce que le père lui demande, mais tu vas être lesbienne,
et il ne
tu
comprend
être...
pas, il est perdu par rapport à ça, parce qu'il mélange, et Lola lui répond, mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que je transitionne en termes de genre que je vais transitionner en termes de sexualité, ce sont deux choses complètement différentes. Les personnes trans ont des sexualités aussi variées qu'il existe de sexualités, en fait, ça n'a rien à voir.
Le fait, en fait, c'est que il n'y a aucune éducation, même à l'école, aucune instruction qui est donnée, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, il y a quelque chose autour de l'homosexualité, je crois, mais sur la
identité,
absolument rien. C'est ça ?
En France, je ne sais pas, en Belgique non plus, pareil.
En Belgique non plus ?
Non, après il y a des associations qui voient le jour quand même un peu partout. En Belgique, il y en a une nouvelle, Transkids, qui cherche justement à accompagner les parents d'enfants trans, les jeunes enfants trans surtout, pour les aider, leur prendre par la main et dire en fait tout va bien. Et voilà, heureusement qu'il y a des...
En France, mais je connais pas le nom.
Oui, il y en a qui existent en France, bon on connaît moins parce qu'on est belge, mais...
Céline Debeau, dans votre préface, vous expliquez ne pas vous sentir représentative de la communauté transgenre.
Non, absolument pas, parce que quand j'ai commencé à débattre sur les forums ou ce genre de choses, je me suis rendu compte que de communauté, ça voulait pas dire grand-chose, et que chacune ou chacun avait un parcours qui lui était propre. Et ensuite, j'ai découvert ce que je connaissais pas du tout, c'était les binaires, les non-binaires, et la diversité.
Les binaires, les non-binaires, il faut expliquer aux auditeurs.
Alors les binaires, ce sont, on va dire, 99% de la population qui considère qu'il y a le genre masculin et féminin. Et il y a les non-binaires qui considèrent qu'ils sont d'aucun genre, ou qu'ils sont des deux genres. Et on a toute une panoplie de mots maintenant qui vont expliquer ça. Et on estime qu'il y a à peu près 13% de jeunes aujourd'hui qui se considèrent non-binaires. Et j'ai assez de mal à comprendre comment on peut se dire non-binaire et transgenre en même temps. C'est-à-dire qu'on souhaite transiter de genre, mais en n'acceptant aucun genre.
Mia Bollard.
Mais après, il faut aussi...
Qui lève la main, c'est adorable. Comme à l'école. Je trouve qu'elle est très jeune.
Il faut aussi en fait sortir justement du schéma binaire. Et là, vous êtes dans un schéma binaire en disant... je veux dire, on n'est pas, en étant une personne trans, vous utilisez le mot achever une transition, mais en fait, on n'achève jamais une transition dans le sens où chaque personne, sa transition, elle est différente et elle va la vivre de façon différente et son point de confort, donc. Achever sa transition va se situer à des points différents.
C'est pas forcément
pour chaque
l'opération,
personne.
C'est ça.
C'est ça, voilà. Et donc. On peut être une femme trans ou un homme trans, tout en n'acceptant pas certaines parties de son corps, par exemple, et se revendiquer masculin, mais ne pas forcément vouloir transitionner complètement. Et voilà, c'est juste sortir des schémas binaires, en fait. Il faut sortir de la binarité génitale, de la binarité anatomique, quoi. C'est tout.
Eh ben, ça sera peut-être le thème du prochain festival, Grégory Tillac.
Oui, tout à fait, c'est une très très bonne idée.
C'est parfait, ben, vous avez le thème pour l'année prochaine, ça sera parfait. Merci à vous tous, merci Mia Bollard, c'est Laurent Micheli, bravo pour le film Lola vers la mer. J'ai pu le voir, on a pu tous le voir autour de la table, mais ça sortira en salle pour vous, Frédéric Martel, le 11 décembre
la
prochain.
Salle, il faut aider les salles.
Céline Audebeau, on peut vous lire dans Du masculin au féminin, Mon parcours singulier aux éditions Kawa. Frédéric Martel, je rappelle que vous signez la préface de Pride aux éditions Grund. Et bien sûr, je rappelle votre somme, Sodoma l'enquête aux éditions Robert Laffont. Et Grégory Tillac, et bien le festival de cinéma Chéri Chéri, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite France Inter Plus. Mais demain, dans le NRV, quoi qu'est-ce?
S'ils ont coupé Internet, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous, les journalistes, les militants des droits de l'homme et le reste du monde, voient les violations des droits de l'homme en Iran.
Iran, pourquoi une telle répression? C'est le dossier pour demain. En live, on retrouvera la pop de Mélodie Loré. La programmation est signée Marion Guilbeault. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, à la technique, Alexandre Chénet et Serge Viguier. Programmation, préparation, Adrien Nazelli, Virginie Rouzic, Clémence Diligent.
Rendez-vous.